L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Kayrouga.
Je compte. Tiens, pas du tout. Hop. Alors,
t'as pas des vers qui seraient restés là-bas éventuellement?
Oh, si, sûrement. Les gens ont aimé les vers, ils les ont gardés.
Ouais. D'accord.
C'était quoi comme événement?
C'est la petite.
C'était la petite à la grainerie. On a fait un événement nos soirées Girls Don't Cry. Donc, on promeut la création des femmes. Et donc, c'était un événement avec les tenaces, en fait. Il y avait toute une journée événement. Il y avait des ateliers, il y avait une conférence aussi, égalité hommes-femmes, etc.
D'accord.
Voilà, plein de choses.
Et vous aviez pris des verres, pourquoi?
Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de verre de disponible au bar de la grainerie. Et puis, de toute façon, la formule des éco-cups est vraiment hyper pratique, puisque pour le coup, on n'est pas sur du verre jetable. Ça se lave, c'est plus écologique, etc. Donc voilà, okay. Tout simplement.
Bah,
merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée. Alors, du coup, là, il y a un des adhérents qui vient de réaliser un événement,
ouais.
Et de vous rendre les gobelets. Comment ça marche, le système de consigne?
Alors, nous, quand ils font la réservation, on les prévient toujours des modalités. En fait, le retour, ça dépend de s'ils nous ramènent la vaisselle sale ou rincée pour les gobelets. Donc, on fait un système de facturation différente parce que derrière, en fait, le travail n'est pas le même, forcément. On leur explique pareil sur le même principe pour la consigne. Pour les gobelets, c'est 1 euro par gobelet qui n'est pas ramené. Et voilà, donc ils viennent récupérer leur commande, on vérifie que tout leur convient bien. Et au retour, en fait, on recompte du coup toute la vaisselle, on voit dans quel état est la vaisselle, elle a été rincée ou pas. Et voilà, et on voit ce qui manque en vaisselle. Voilà. Et après, surtout ce qui est du coup assiette, couteau, fourchette, etc. Là, on applique un tarif de location.
Et alors ici, dans vos locaux, vous avez un système de laverie, juste là?
Oui, c'est ça, ouais. Après, Béatrice, peut-être que tu en parleras mieux que moi, mais c'est juste à côté, là.
Donc, depuis l'année 2018, on a réussi à investir dans du matériel de laverie chez nous. Donc, nous, on met tous la main à la pâte. On a un responsable logistique qui est aussi sur le lavage. Et du coup, on peut, comme ça, mieux gérer le timing et puis être plus en flux tendu, en fait, au niveau de la vaisselle.
Je vous montre l'espace.
Donc là, c'est là où on stocke toute la vaisselle sale qui revient. Ensuite, on a un évier pour pré-laver si besoin. On a une grosse machine qui est plus large que les machines classiques parce que ça nous permet de laver aussi les caisses dans lesquelles on va stocker tous les gobelets et tout ça, les caisses qui reviennent sales. Et ensuite, ce qui est super long, c'est le séchage. Donc on a besoin d'avoir un espace de séchage assez grand parce que la seule façon de les faire sécher, malheureusement, c'est de les mettre en pyramide. Voilà, donc on fait des très bons Égyptiens parce qu'on est des pros en pyramide de gobelets. Donc on est ici, l'espace de séchage. Voilà, là il n'y en a pas, mais c'est vrai qu'on fait des pyramides et des pyramides de gobelets et on les laisse sécher à l'air libre voilà, avant de les restocker dans les caisses et de pouvoir du coup les réutiliser pour les prochaines commandes.
Alors c'est le tri?
Ouais, c'est le tri.
Ça s'est dit pas ouais.
Oui, c'est le tri. On fait le tri de la vaisselle qui est retournée. Et là, il y a ce client qui a retourné à peu près 1200 assiettes, grandes assiettes, 1200 petites assiettes, 1200 couteaux et 1200 fourchettes. Donc, c'est beaucoup de boulot.
Et tu comptes alors?
Oui, je compte. Là, j'étais à 13, je crois. Oui, je compte. Et on fait par tas. On fait plusieurs tas de 20. Et après, je fais la somme. Et comme ça, ça permet de faire petit à petit et ne pas perdre voilà, le calcul. Désolée, je compte en italien. Ah. Je sais que tu m'enlèves. Et...
Toi, tu fais les fourchettes.
Oui, moi, là, je suis en train de diviser les fourchettes des couteaux. Peut-être que je vais l'aider à terminer les couteaux d'abord. Ça, elle est vide. Eh oui, parce qu'il ramène un peu tout mélangé. Du coup, il faut bien vérifier chaque caisse.
Oui, c'est fourchette.
Mais petit à petit, on y arrive. Hein.
Toi, tu es le responsable de la logistique?
Oui, oui, tout à fait. Du coup, oui, je prépare les commandes, je gère les retours quand je suis là, pas toute la semaine, de lundi à mercredi. Mais oui, il faut dire ça. Coup de couteau. Par contre, jusqu'à là, moi je commence.
Ça, c'est les classeurs où on a tous les emprunts en cours, toutes les conventions en fait des emprunts. Voilà, en ce moment, il y a le printemps étudiant, une soirée improvisation au FSE Collège Berthelot, Applicoli qui nous a pris des gobelets pour un welcome tour. On a un partenaire relais parce qu'on a des partenaires relais dans différents départements qui ont aussi des stocks de gobelets. Ils les reprêtent localement à d'autres. Donc il y en a un qui est passé vendredi refaire le stock de ses gobelets. Voilà, une association qui s'appelle 109 qui nous a pris des gobelets. Là, il y en a d'autres qui sont sortis pour une course d'orientation le week-end dernier. Donc c'est assez... qui a pris des gobelets et de la vaisselle, c'est assez varié.
Vous avez quoi alors à la location? On peut dire que c'est une forme de location que vous faites pour accompagner les événements vers le zéro déchet?
Les gobelets, c'est vraiment notre matériel historique, on va dire, qu'on fait depuis le début. Donc on les prête aux adhérents. Donc on les prête gratuitement et ensuite on fait payer au retour le lavage et les gobelets manquants. Et la vaisselle, on la loue, donc on a des grandes assiettes et des couverts, des pichets et des barquettes pour remplacer les barquettes de frites. Ça, exceptionnellement, on a des pots en verre parce qu'il y a un drive qui s'est monté à Toulouse qui s'appelle le Drive Tout Nu, qui ne fait que qui vend tout dans des bocaux consignés. Et du coup, c'est tout en vrac et dans des pots en verre. Et le fait de travailler avec le Drive Tout Nu, pour nous, ça nous plaît déjà parce qu'on a investi dans un espace de lavage. Donc il y a un an, et en fait l'idée c'était de pouvoir aussi mutualiser cet espace de lavage en se disant pourquoi pas dans la mesure où c'est possible, ben, qu'il soit utilisé par un maximum de gens. Il y a beaucoup de projets de consignes en ce moment qui se mettent en place sur Toulouse, et du coup il y en a plusieurs en fait qui travaillent avec nous pour pouvoir, soit c'est eux qui viennent laver du coup leur contenant en verre dans notre espace de lavage, soit c'est nous qui le lavons, voilà. Mais de pouvoir aussi mutualiser cet espace de lavage avec les différents projets de... On est tous dans la réduction des déchets, mais qui dit réduction des déchets dit lavage. Donc voilà, pouvoir mutualiser l'espace de lavage dans lequel on a pu investir.
Alors c'est des consignes comme on voyait avant, c'est-à-dire les clients d'un magasin, par exemple, viennent remplir une bouteille de vin avec du vin en vrac. Quel genre de magasin il y a aujourd'hui sur Toulouse?
Ils servent par exemple dans le Drive Tout Nu, les gens achètent de la farine, des céréales, des graines, n'importe quoi. Et du coup, c'est dans ces bocaux. Et ensuite, on travaille avec un autre projet qui s'appelle Éthique, où ils servent des contenants en verre. Pour les repas du midi, en fait, chez les restaurateurs qui servent des repas à emporter le midi, qui sont toujours dans des emballages jetables, normalement. Et du coup, là, c'est dans des boîtes en verre et qui seront pour l'instant lavés chez nous.
D'accord.
C'est le dernier projet à la mode à Toulouse.
D'accord, d'accord. Donc, si on se reconcentre donc, sur votre association élémentaire, donc, qui est née à Toulouse et qui maintenant rayonne un peu partout. Alors, vous faites Donc, toute cette action autour des gobelets, des éco-cups, hein, qui vous a fait connaître, mais vous ne faites pas que ça.
On fait aussi, du coup, depuis plusieurs années, en fait, le fait de travailler au contact des organisateurs d'événements de par la vaisselle. On s'est spécialisé petit à petit aussi dans l'accompagnement à l'éco-responsabilité. Et aujourd'hui, on voit que c'est une demande assez forte. Hier, il y avait les rencontres régionales des événements responsables. C'est vrai que ça a été beaucoup dit, on n'a plus le choix aujourd'hui. Il faut que les événements, comme les autres, y passent, on va dire, c'est-à-dire s'engagent de plus en plus dans la réduction des déchets, dans le développement durable d'une façon générale, qui travaillent sur les transports des festivaliers, voilà. Donc, beaucoup d'organisateurs ont cette envie, ont cette motivation. Maintenant, ce n'est pas toujours facile de s'y lancer. Si on ne sait pas ce que font les autres, on cherche des prestataires, on cherche par où commencer. Voilà. Et du coup, élémentaire, donc on propose un accompagnement individualisé des événements pour essayer de faire un peu déjà un diagnostic de où ils en sont. Et ensuite, en fonction de leur public, de leur site, de l'équipe aussi, parce que ça dépend beaucoup de l'équipe organisatrice, de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir développer un plan d'action, quelles actions faire en priorité, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire sur plusieurs années. On ne peut pas changer du tout au tout sur une édition. Donc, il faut accepter que ça va se faire pas à pas, mais qu'il va falloir travailler là-dessus. Et donc, nous, notre accompagnement, c'est vraiment sous forme de conseil, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire à la place des gens, mais on est là pour répondre à leurs questions, pour les aider sur des choses très pratico-pratiques, sur comment faire, comment mettre en place, s'ils ont plusieurs buvettes, est-ce que c'est quand même possible avec des gobelets réutilisables, parce que du coup, chaque buvette ne récupère pas ses gobelets. Voilà, donc des fois, on a des questions très, vraiment de terrain, quoi. Et la gestion des déchets, comment ça fait, quoi, il faut mettre les mains dans les poubelles pour surtrier. Oui, la seule façon de bien gérer les déchets, c'est qu'il y ait des personnes qui retrient derrière. Et vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'ils font sur les autres festivals. Ah oui, d'accord, ah bah oui, ok, peut-être que alors on peut s'y mettre aussi. Voilà, donc on est sur différentes thématiques. Sur le transport, c'est assez problématique parce que le transport dans un bilan carbone d'un événement, c'est plus de 80% du bilan carbone, c'est le transport des festivaliers. Donc l'impact est énorme, mais les organisateurs n'ont pas la main là-dessus. Ce n'est pas eux qui choisissent comment viennent. Donc on essaye de travailler avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont quand même comme piste d'action possible pour faire en sorte de minimiser l'impact du transport et pour faire en sorte d'amener leurs festivaliers à ne pas venir chacun en voiture. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Comment on peut y travailler? Voilà. C'est pour ça que je dis bien sûr, ça dépend de l'événement. C'est pas pareil un événement qui se déroule en centre-ville de Toulouse qu'un événement qui a lieu dans un petit village perdu du Lot. Voilà, le déplacement n'est pas le même.
Alors du coup, si on rentre un peu dans le concret, par rapport à cette question du déplacement, il y a des plateformes de covoiturage notamment ?
Il y a des plateformes de covoiturage. Il n'y en a pas spécifiquement, enfin il en existe, mais ce n'est pas forcément sur un événement.
Il n'y a pas une plateforme de covoiturage spécifiquement dédiée aux événements festifs en France ?
Pas vraiment.
Alors il faut peut-être inventer ça.
Tout à fait, c'est une bonne idée de projet à lancer. voilà, il y a des plateformes sur lesquelles il y a une possibilité de créer un événement, tout ça, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ça qui marche et ce n'est pas ça qui est mis en avant par les événements. Mmh. La présentation, du coup, sur le site Internet est importante et elle peut changer aussi la façon dont les gens vont s'organiser. Soit ils vont se dire, oui, je vais venir en voiture et voilà. Soit, oui, tiens, c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités de venir et je réfléchis différemment et je me projette peut-être plus dans un train, dans d'autres choses. Si on leur dit que c'est à 15 minutes à pied de la station de métro, finalement, 15 minutes à pied, ça peut se faire, quoi. Alors que dans mon imaginaire, c'était loin.
Les cris sourds des pays qu'on enchaîne.
si on rentre concrètement dans l'accompagnement, de quoi il s'agit ? Donc, vous avez parlé le transport, les éco-cups pour que ce soit de la vaisselle réutilisable. Et est-ce qu'on peut aller plus loin ?
Donc, quand on accompagne un événement, par exemple sur les déchets, on essaye de lister déjà tous les déchets qui vont être produits sur l'événement. En fonction des différents lieux, donc en termes de restauration, par exemple, est-ce que la restauration est faite sur place ou pas ? Si oui, il va y avoir des épluchures, donc est-ce qu'on peut composter ces épluchures ? Il va y avoir des emballages alimentaires, est-ce qu'on peut les réduire ? Sur quoi est-ce qu'on est prêt ? Quels efforts on est prêt à faire ? Quels efforts ça nécessite, en fait ? Par exemple, d'aller tout acheter en vrac, ben, c'est sûr que c'est difficile. Est-ce que on peut travailler avec plutôt un approvisionnement local ? Souvent ça nécessite du temps parce qu'il faut aller voir les producteurs. C'est pas un seul producteur qui va pouvoir fournir et la viande et les légumes et les fruits et le fromage et tout ça, donc il va falloir voir plusieurs producteurs par rapport à un seul supermarché où on peut tout trouver. Ensuite, sur les déchets, si on reste sur l'alimentation, il va y avoir les restes alimentaires, donc on va déjà essayer de minimiser le gaspillage alimentaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait des restes ? Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir se poser comme question en amont. Est-ce qu'on vend des bouteilles d'eau ? Est-ce qu'on essaye d'éviter ce déchet-là ? Il y a beaucoup de freins, par exemple, sur les bouteilles d'eau. Il y a des festivals qui nous disent que c'est une source de revenus pour nous de vendre des bouteilles d'eau. On n'est pas prêt à s'en passer. Donc, est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose ? Sur la scène, il y a souvent des problèmes techniques parce que les techniciens, il leur faut des bouteilles d'eau. Les artistes, sur des festivals de musique, il leur faut des bouteilles d'eau dans les loges, tout ça. Est-ce qu'on arrive à proposer des gourdes ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisateurs qui se posent cette question. Dans des salles de concert aussi, la question des gourdes, j'allais dire, c'est la question du moment. Comme l'étaient les gobelets il y a 10 ans. Donc peut-être que dans 10 ans, ce sera évident, il n'y aura plus une seule bouteille d'eau sur les événements. On sera tous avec des gourdes réutilisables. Voilà, donc nous, on n'est pas là pour dire aux organisateurs « il faut que votre événement soit zéro déchet, sinon ça ne va pas ». Mais sur le, bah, on travaille pour réduire petit à petit les déchets. Ils ne sont pas prêts à tout accepter d'un coup, ça c'est sûr. Donc, quels sont les leviers sur lesquels ils sont prêts à faire des efforts voilà. Et on essaye de voir aussi, parce que souvent, les gens nous disent éco-responsabilité égale dépense en plus. Et du coup, on est là aussi pour voir que ce n'est pas toujours le cas. Ça va être des coûts d'investissement qui vont être rentabilisés sur plusieurs années. Donc, mais c'est aussi un effort par rapport à acheter chaque année des choses, ou alors l'acheter une année pour plusieurs années. Financièrement, c'est vrai que c'est une gestion différente, quoi.
Est-ce qu'il y a un travail ? Est-ce qu'il y a des associations peut-être complémentaires à vous, l'association élémentaire, qui fait de la déco récup ou de la déco responsable ?
Il y a beaucoup de festivals, je dirais, qui s'engagent déjà à n'utiliser quasiment que du matériel de réutilisation, enfin, qui a une deuxième vie. Donc, il y a des magasins, il y a des ressourceries, il y a Emmaüs. À Toulouse, il y a Bois et Compagnie qui récupèrent du matériel de construction et de bâtiment. Ça ne sera pas forcément du matériel qui sera réutilisé des années et des années, parce que les festivals, ils changent leur déco, ils changent leur thématique, et ils y tiennent, et on comprend. C'est ça aussi qu'on apprécie sur un festival.
Après, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais il y a les toilettes sèches qui se sont énormément développées ces dernières années. Mais il reste encore aussi beaucoup, beaucoup d'événements qui ont des toilettes chimiques.
Des toilettes sèches, ça nécessite aussi une gestion humaine pendant tout le temps de l'événement. Et ça, toutes les associations qui proposent des toilettes sèches pour les événements souvent imposent qu'il y ait une gestion humaine de leur part. Parce que le constat est que si c'est mal géré, les toilettes sèches, du coup, ça donne une très mauvaise image des toilettes sèches. Ensuite, il y a vraiment des festivals qui font ça super bien. Et le fait de valoriser le travail des bénévoles là-dessus, ils sont en groupe, ils ont... Enfin voilà, ça peut être aussi un poste assez sympa pour les bénévoles. Finalement, c'est pas plus dégradant qu'autre chose. Et s'ils sont assez nombreux et si c'est bien proposé, valorisé et tout ça, c'est quelque chose qui est très... qui est chouette à faire et qui plaît aussi. Et pour le coup, les gens sont hyper agréablement surpris d'avoir toujours des toilettes sèches et propres et clean pendant leur événement. Ça peut être vraiment un sacré plus. Et derrière... L'autre question difficile, c'est que faire de la litière des toilettes sèches, c'est-à-dire donc l'urine, les excréments et la sueur. Comment est-ce qu'on peut la valoriser et qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a plusieurs solutions qui existent. Soit on a une plateforme de compostage collectif ou industriel qui accepte de le récupérer. Soit on le met chez un agriculteur. Mais c'est vrai qu'il faut trouver l'agriculteur qui accepte d'avoir des litres et des litres de toilettes sèches sur un week-end. Il y a des normes qui existent. Je crois qu'il faut que ce soit laissé au moins un an sur un compost avant de pouvoir être épandu sur des champs ou quoi, pour que toutes les substances toxiques se soient éliminées naturellement dans le compost. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi un travail de s'assurer que ce soit fait soit par un prestataire extérieur, soit en interne, et jusqu'à la valorisation de la litière derrière, quoi.
Voilà, ne pas oublier ça, parce que finalement, si on organise soi-même ses toilettes sèches sur son festival, c'est quand même très important de penser à effectivement la valorisation après. Mais quand on passe par un prestataire toilettes sèches, la plupart du temps, c'est compris dans le forfait.
Donc il y a un annuaire en ligne sur notre site qui propose des prestataires éco-responsables pour les organisateurs d'événements.
De la mise en réseau finalement.
C'est ça, de la mise en réseau. Et puis il y a aussi des guides, des fiches techniques, voilà, pour essayer de donner aussi des outils aux organisateurs. Ils ont un accompagnement humain possible et des outils voilà, pour déjà savoir aussi pour eux comment faire, des fiches pratiques.
Et ça, c'est en libre accès pour tout le monde sur votre site internet. Élément terre, en deux mots.
C'est ça, c'est en libre accès, c'est éléments sans le T, -terre.org.
Ce qui est vachement intéressant aussi à Élémentaire, c'est que donc, vous accompagnez donc, les organisateurs de festivals pour faire la fête, donc festivals de musique, festivals culturels, arts du cirque, ou, enfin tout ce qu'on veut, mais vous accompagnez aussi les collectivités, organisateurs d'événements.
Donc là, on travaille avec la mairie de Blagnac, par exemple, qui organise le festival Lulu Berlu. C'est assez différent parce que, par exemple, ils n'ont pas de bénévoles sur leur événement, alors que les événements associatifs s'appuient énormément sur leurs bénévoles. Voilà, mais du coup, on va pouvoir travailler différemment avec eux. Et bien sûr qu'eux aussi sont impliqués dans le fait de réduire l'impact environnemental de leur événement, d'avoir un impact social positif. Donc oui, on travaille aussi bien avec les collectivités. Je pense que... Il faudrait qu'on arrive à travailler aussi, et on le disait hier donc sur notre événement, avec toutes les agences de communication, les agences événementielles qui créent des événements pour les entreprises, qui créent des événements justement aussi pour les collectivités ou quoi. Parce que clairement aujourd'hui, l'éco-responsabilité, ce n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Ils sont dans la communication, dans le « m'as-tu vu ?» voilà. Et c'est vrai que... Sur les festivals, ça bouge. Il y a d'autres associations qui accompagnent les événements, comme nous, on le fait sur l'Occitanie, dans d'autres régions. Et sur les événements plus professionnels, il y a encore un gros travail, je pense, à faire là-dessus.
Vous faites aussi des animations lors des événements qui permettent de sensibiliser le grand public sur ces questions de déchets, en complément des actions que vous faites auprès des organisateurs.
C'est ça, je trouve, qui est passionnant sur les événements, c'est que... Il va y avoir souvent des centaines et souvent des milliers de personnes rassemblées sur un lieu donné, à un moment donné, qui sont justement des personnes pas forcément engagées dans tout ce qui est écologie, tout ça. Et en fait, ils peuvent voir sur des événements des initiatives. Par exemple, s'il n'y a plus de vente de bouteilles d'eau, ben, ça peut être expliqué pourquoi. Si c'est de la restauration locale de saison qui est choisie, ça peut aussi être expliqué pourquoi est-ce que c'est ces choix-là qui ont été faits, quel est l'impact. Et souvent, quand même, les organisateurs décident aussi d'avoir des stands ou des conférences ou quoi qui peuvent être inclus au programme. Donc, c'est nous, dans ce cadre-là aussi, qu'on peut intervenir, où on propose des stands grand public, c'est ça, sur la fabrication de produits d'entretien écologique, par exemple, qui est une action qui marche bien, parce qu'en fait, les gens, ils viennent sur notre stand, ils font une action très concrète qu'ils peuvent reproduire dans la vie quotidienne, ils repartent avec un échantillon, ils peuvent le tester, ils repartent avec les recettes, avec des idées... avec le pourquoi le faire, et voilà, et ça participe aussi à changer les mentalités, les comportements, ça. Et c'est vrai que ça, c'est important sur les événements, c'est cette capacité à faire, à donner un message à des milliers de personnes en même temps, et on cherche toujours, quand on est dans l'éducation à l'environnement, à atteindre des personnes non converties, c'est-à-dire que si moi je fais un événement qui s'appelle un événement sur les événements responsables, les gens qui viennent, c'est des gens qui déjà s'intéressent à ce sujet. j'aurais du mal à toucher des gens qui font des événements pas du tout responsables, ils ne vont pas venir là-dessus parce que globalement, ça ne les intéresse pas. Alors que sur un festival, on touche des milliers de festivaliers qui ne sont pas forcément convaincus là-dessus. C'est ça la force intéressante aussi de ces événements. Et c'est pour ça qu'on travaille, nous, sur des stands grand public là-dessus aussi.
Bon, et si on veut aller au festival le plus éco-responsable de la région Occitanie, c'est lequel ?
Le festival de Thon est un festival super précurseur en la matière. Il est donc sur l'étang de Thon à côté de Sète. C'est un festival de musique du monde qui a lieu en juillet. Et il a une particularité, c'est qu'il a eu la norme ISO 2021, qui est une norme sur le management responsable des événements. Voilà, il y a ensuite le festival Écosystème, qui est un festival aussi qui travaille beaucoup là-dessus, aussi sur la solidarité et sur le côté éco-citoyenneté. Voilà, deux exemples de festivals qui mettent en place plein de choses très chouettes en termes d'éco-responsabilité.
D'accord. Merci Béatrice, donc coordinatrice d'Élémentaire.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.